Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dur d'être un inventeur, ou plus exactement, pour être inventeur vivant de ses inventions, mieux vaut être calé en droit et être préparé aux affres de l'administration. Cette émission Regards croisés est consacrée au brevet, titre de propriété industrielle censé permettre à l'inventeur d'être rétribué. Nous ferons le point sur les difficultés rencontrées par les inventeurs eux-mêmes, par les PME qui ont besoin d'accéder à de nouveaux brevets pour innover, et aux enjeux économiques des inventions sur le plan national, européen et mondial. Un chiffre, plus de 16 000 brevets sont déposés en moyenne en France par an. Et en fait, presque rien à côté des Chinois et des Américains qui en délivrent entre 5 et 10 fois plus. Outre l'aspect quantitatif des brevets, ils représentent une manne financière importante qui a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs économiques, les fonds d'investissement spécialisés dans les brevets qui spéculent sur ces produits en devenir, les cabinets de conseil qui soutiennent les industriels soucieux de mettre sur le marché de nouveaux produits, et puis une nouvelle espèce est née de ces échanges économiques, les patent trolls. Un drôle de nom pour des compagnies qui utilisent la concession de licences et le litige de brevets comme principale ressource financière. Toutes ces questions, tous ces points, je vous propose de les aborder en compagnie de nos deux invités dans cette nouvelle émission. Patrick Terroir, Bernard Meunier, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Patrick Terroir, vous êtes directeur général délégué de CDC Propriété Intellectuelle, une filiale de la Caisse des dépôts. Vous êtes également maître de conférences à Sciences Po Paris et en politique économique et en économie de la propriété intellectuelle. Vous nous donnerez donc votre regard d'économiste et d'investisseur public. Bernard Meunier, vous êtes membre de l'Académie des sciences, directeur adjoint du laboratoire de chimie de coordination du CNRS à Toulouse. Vous êtes membre du conseil d'administration de Palumed, société qui propose des brevets aux industries pharmaceutiques. Vous nous apporterez pour votre part votre regard de concepteur et d'exploitant de brevets. Première question qui s'adresse à tous les deux, Patrick Terroir, Bernard Meunier. Les brevets aujourd'hui protègent-ils trop les inventeurs, étouffant leurs propres inventions, ou au contraire, ne les protègent-ils pas assez ? Bernard Meunier.
Non, le brevet et l'inventeur, ça fait partie d'un binôme qui existe depuis longtemps. Avant, c'était les lettres patentes du roi. Donc, il y a en France au moins 400 ans de recul sur la propriété intellectuelle. Trop l'inventeur, non. Je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de développement et d'innovation sans que l'inventeur puisse valoriser sa recherche à travers un brevet de qualité obtenu rapidement dans de bonnes conditions, avec des extensions internationales obtenues elles aussi facilement, avec un minimum de tracas administratifs. Voilà le rêve de l'inventeur. Mmh.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, Patrick Terroir.
Je prendrai la question sous un autre angle. Ce qui se produit, c'est ce qu'on appelle en économie, enfin c'est un terme un peu nouveau. En économie, vous savez, il y a une expression qui s'appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire le fait qu'il y a un certain nombre de biens publics et que chacun peut finalement, au regard de son intérêt propre, finalement l'accumulation des intérêts propres aboutit à un excès de consommation d'un bien public. Eh bien, dans le domaine des brevets, on commence à être dans une situation inverse, ce qui fait qu'on dit qu'on est dans la tragédie des anti-communs, c'est-à-dire que l'accumulation des droits de propriété sur des objets qui sont souvent les mêmes objets, les mêmes innovations, fait qu'il est finalement difficile pour celui qui a un droit de propriété intellectuelle de le faire valoir et de l'exploiter. Aujourd'hui, la plupart des inventions reposent sur une multiplicité de brevets. Par exemple, je lisais récemment qu'une semence de riz améliorée reposait en fait sur 80 brevets. Ça veut dire que pour l'exploiter, il faudrait demander aux 80 propriétaires de ces brevets le droit de l'exploiter. Alors dans le domaine de l'électronique, c'est plusieurs milliers quelquefois d'inventeurs qui sont à l'origine d'une même innovation. Et donc on est dans un phénomène assez nouveau où l'accumulation des droits de propriété peut aboutir paradoxalement à priver les propriétaires de l'exercice de leurs droits.
Alors un système de poupée russe en quelque sorte, ce phénomène est-il récent? Est-ce qu'on l'observe depuis quelques années? Sur le plan économique, est-ce que cela a changé depuis une vingtaine d'années, Bernard Meunier?
Ça a changé, il y a effectivement des domaines. Si vous prenez le domaine de l'industrie pharmaceutique, celui un peu que je connais, une molécule, une petite molécule, une série de brevets, 3, 4, 5 maximum, et ça peut conduire à un blockbuster, comme on dit en jargon d'industrie pharmaceutique, un chiffre d'affaires de 4, 5, 6, 7, 8, 10 millions de dollars par an. On a eu en France l'exemple bien connu dans le domaine des molécules antitumorales, Taxotere de Pierre Potier, brevet CNRS en VAR, ensuite repris par Ron Poulenc-Rohrer, Aventis et Sanofi Aventis. C'est une molécule qui tourne autour de quelques brevets. Mais quand on est dans l'industrie de l'électronique, des télécommunications, on vient de changer d'échelle. On arrive maintenant non pas à un objet, un brevet, mais un objet et quelques milliers de brevets. Alors l'exemple le plus connu et auquel tout le monde pense, c'est les téléphones portables modernes, c'est quelques milliers de brevets. Et là, je rejoins effectivement le point qui a été soulevé tout à l'heure, c'est que c'est devient difficile pour l'inventeur de retrouver ses petits. Et qu'est-ce que ça signifie dans le monde de l'électronique, effectivement, d'être inventeur dans un système où on termine avec des milliers de brevets pour protéger un secteur. Donc là, on a changé d'échelle. Le brevet était historique, c'était une personne, un brevet, un objet. Et maintenant, on est des milliers d'inventeurs, ou dizaines de milliers d'inventeurs, des milliers de brevets et un objet in fine, pour lequel les gens ne réalisent pas la complexité que ça représentait comme recherche de centaines et de milliers de personnes. Voilà le changement d'échelle sur les 20 dernières années.
Alors, vous parlez des télécommunications, restons peut-être sur cet exemple quelques instants. On a en tête une marque avec une pomme qui a créé donc un téléphone portable. Il se trouve que quelques mois après, d'autres marques ont réalisé des produits similaires. Est-ce que là, dans ce cadre-là, on est dans de la contrefaçon, ou où se situe la limite entre le développement de nouveaux produits similaires ou en contrefaçon, Patrick Terroir ?
En fait, la situation de l'inventeur et de l'invention isolée a toujours été plus ou moins un mythe. Toutes les recherches montrent que les inventions ont été faites à un moment. Il y a des histoires tout à fait célèbres, hein, sur l'invention du téléphone, etc. Ont été faites à peu près au même moment par plusieurs inventeurs. Donc c'est, je dirais, l'état général des connaissances et de la culture à un moment donné qui favorise l'invention et un certain type d'invention. Alors, dans le domaine de l'électronique et de l'informatique, là, il y a un savoir-faire, une technologie extrêmement répandue, et les inventions sont souvent des inventions incrémentales qui reposent sur une sorte de base de culture et de technologie commune. Donc, le brevet change de nature dans ce monde-là. Le brevet, qui, un peu historiquement, est censé protéger un inventeur isolé pour qu'il développe une exploitation, devient en quelque sorte un moyen de rétribuer une partie d'un effort de recherche qui conduit à une invention. Mais pour fabriquer un produit, vous preniez le téléphone portable, il y en a des tas d'autres, il faut donc agglomérer ces différents types de brevets. Bon. Et donc les combats, les luttes, les disputes qui se déroulent sous nos yeux entre les compagnies géantes du secteur de l'électronique et de la communication, finalement, sont le reflet de cette évolution générale de la technologie. Mais les enjeux sont tellement importants parce que on est en fait face à un cadre juridique qui montre peut-être quand même des signes de rupture, en tout cas de besoin d'adaptation face à une situation technologique qui s'est vraiment très fortement transformée. Les combats auxquels on assiste sont finalement aussi la contradiction, enfin contradiction positive, hein, c'est pas, je dis pas ça du tout de manière critique, entre ce cadre juridique et cette évolution des technologies. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire facilement qui copie qui dans ces domaines-là. D'ailleurs, ils se copient mutuellement, donc ils essayent de...
Alors, restons peut-être dans le domaine technologique. Est-ce qu'il existe des choses qui ne se brevettent pas ? J'ai en tête, par exemple, les logiciels. Je crois que les logiciels, en France, en Europe, ne se brevettent pas, contrairement aux États-Unis. Vous pouvez m'arrêter là-dessus. Bernard Meunier.
Non, dans l'électronique, je ne suis pas un spécialiste. Donc, les logiciels non plus. Moi, je reste, sur les molécules. C'est un domaine où, effectivement, on peut facilement identifier l'objet... À breveter, l'objet, c'est une molécule qui a un poids moléculaire, une analyse précise, un spectre Raman, donc il y a des caractéristiques. Donc, je crois que le problème du logiciel est compliqué. En plus, c'est un domaine où vous avez deux façons de voir le monde et la vie des logiciels. Ceux qui considèrent que tout doit être gratuit, ouvert, et ceux qui considèrent qu'effectivement, l'invention et l'amélioration dans le domaine des logiciels, c'est comme toute autre invention et modification intellectuelle, ça peut faire l'objet d'une protection intellectuelle. Donc, c'est un domaine un peu plus compliqué. Moi, je voudrais revenir sur le propos tout à l'heure de Patrick Terroir. Effectivement, maintenant, quand on gère des dizaines de milliers de brevets dans le domaine de l'électronique et des biens de consommation large échelle qui sont basés sur l'électronique moderne, sur le plan évolution du brevet, on est dans un tout autre domaine. La notion de propriété intellectuelle, quand vous êtes un 1/30 millième de propriété intellectuelle, c'est une copropriété qui devient difficile à gérer pour l'inventeur et pour la personne qui gère les 29,999 autres millièmes, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est en train de changer dans le monde. Ceci dit, quand on regarde objectivement les choses, personne ne lâche le brevet. Quand on voit l'évolution actuelle des pays dits émergents et qu'on voit l'arrivée de la Chine avec 400 ou 500 000 ou 300 000 dépôts de demandes de brevets et qu'on voit que la Corée du Sud actuellement fait plus en dépôt de brevets que ce qui est traité à l'Office européen des brevets, on se perçoit que le brevet est loin de mourir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il évolue de manière massive et ça va être probablement difficile dans l'avenir de gérer cette masse de demandes de brevets et de faire la distinction entre le brevet qui va correspondre à une ouverture importante et le brevet qui est une amélioration légère mais significative à partir de dizaines de brevets. Donc on va avoir une échelle, une palette que l'on n'a jamais observé dans le domaine du brevet sur les 200 dernières années.
Alors, on a bien compris, effectivement, une évolution massive des brevets à l'échelle d'un pays. Mais alors, est-il intéressant, souhaitable ou pas du tout, d'harmoniser, par exemple, les brevets entre les pays de l'Europe et puis les États-Unis, par exemple ? Patrick Terroir.
Oui, c'est certainement ce qu'on se dit spontanément. En fait, on est, je pense, là en train de toucher une manifestation palpable de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Finalement, cette économie de la connaissance, on en parle, on en parle, on en parle. Là, on est en train de voir un phénomène, pas physique, parce que le brevet est un objet linguistique en quelque sorte et immatériel, mais en tout cas, cette augmentation, je dirais pas inflation parce que ça ferait négatif, mais cette augmentation du nombre de brevets et de la brevetabilité, parce que vous avez raison, il y a des choses qui ne sont pas brevetables, mais qui le sont dans d'autres continents, et puis il y a de toute façon d'autres moyens de protéger ou de faire des transactions sur de la production intellectuelle. Internet, maintenant, est d'une créativité dans ce domaine qu'on peut observer tous les jours, hein, et on voit s'échanger des agglomérats d'inventions intellectuelles dans beaucoup de domaines. Et donc, on assiste là, je crois, vraiment à la manifestation de ce que peut signifier l'économie de la connaissance.
Alors, juste avant de marquer une pause, une dernière question qui portera sur l'Europe et les brevets. Où en sommes-nous, justement, de cette situation, de la possibilité de créer un brevet européen ? Patrick
Terroir. Je pense que je vais commencer, peut-être Bernard complétera certainement même. Je pense qu'on a vraiment très bien progressé, là, au cours des derniers mois. Cette évidence, je dirais, qui aurait dû être réalisée presque à la création de l'Europe, d'avoir un brevet européen, c'est-à-dire qu'un industriel qui dépose un brevet, que ce brevet soit immédiatement valable dans l'espace communautaire, je veux dire.
Mais pourquoi cette lenteur ? On sent bien que c'est lourd.
L'Europe effectivement, a quelque chose de lourd. Une agglomération, pour le coup, de nationalités qui, chacune, tient à défendre sa spécificité, ce qui, en même temps, fait la dynamique de l'Europe. Et dès lors qu'on avait décidé d'avoir un brevet unifié européen, il fallait qu'il soit un brevet standardisé dans beaucoup de ses aspects, notamment dans la langue. Et donc, chaque nation a essayé de défendre la possibilité que le brevet soit exprimé dans sa langue. Voilà. Et donc, c'est ce qui a ralenti depuis des années. Donc, je pense que c'est une évolution qui arrive enfin et qui est indispensable. Et comme vous le disiez ou le laissiez entendre dans la question précédente, on peut maintenant se poser, compte tenu de cette évolution de l'économie de la propriété intellectuelle et de cette économie des connaissances, si cette question ne doit pas être posée maintenant au niveau mondial. Et d'ailleurs, en pratique, elle l'est pratiquement de facto. C'est-à-dire que les brevets qui sont considérés comme étant les brevets dominants, les brevets vraiment de valeur, sont des brevets qui sont déposés en anglais dans les grands pays du monde. Donc, de facto, il y a déjà... Et peut-être là, ça rejoint la réflexion qu'on faisait tout à l'heure sur la différenciation du niveau de protection.
Bien amené sur cette question.
Alors, on va faire de la science-fiction. Voilà. Dans 20 ans, il y aura le combat entre le mandarin et l'anglais pour les brevets. Voilà. Mais l'Europe n'a pas le choix. Il y a une résistance formidable au niveau de tous les pays européens pour éviter d'avoir le brevet unitaire ou unique, selon l'appellation qu'on veut lui donner, qui puisse être rédigé actuellement, et c'est l'accord de 25 pays sur 27 au niveau de l'Union européenne, en français, en anglais ou en allemand, c'est l'accord de Londres. Et je crois que le sens de l'histoire est tel que maintenant il sera difficile de revenir en arrière. Il y a un combat d'arrière-garde qui est mené par deux pays sur 27, tout le monde espère que pour 2012, nous aurons le brevet unique, c'est-à-dire qu'un chercheur peut déposer directement au niveau de l'Office des brevets européens une demande en une des trois langues que je viens de citer. Et ensuite, si le brevet est accordé, il est accordé sur l'ensemble des 25 ou 27 pays qui ont signé l'accord, de façon à ce qu'il soit valable sans qu'on ait ensuite à repasser par des phases nationales. N'oublions pas que les États-Unis, qui est un marché de 350 millions, ont une centralisation fédérale de leur office des brevets, la Chine aussi. Et donc, on voit bien qu'il y a trois mondes qui vont être les acteurs dans le dépôt de brevets. Voilà. Il faut que l'Europe soit absolument à la cadence de l'évolution actuelle de l'histoire. Sinon, ça se passe très mal quand on est en retard.
On est plus dans l'anticipation que dans la science-fiction, alors.
Pas tellement, vous savez, la science-fiction, dans 15 ans, au rythme où se développent les échanges internationaux, qui aurait imaginé, il y a 20 ans, que les Coréens et les Chinois allaient passer devant les Européens au point de vue demande de brevets ? Personne. C'était de la science-fiction, et en 20 ans, on est dans la réalité.
Alors, on va méditer le temps d'une pause, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Académie vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole ? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre ? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique ? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir ? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademie.com.
Retour à notre émission Regard croisé en compagnie de Patrick Terroir et de Bernard Meunier. Une question qui revient, sur laquelle on s'était arrêté avant la fin de cette première partie. Est-il plus facile d'inventer en Chine et aux États-Unis plutôt qu'en Europe, au regard de ce que venait de nous dire Bernard Meunier ?
Je ne sais pas s'il est plus facile d'inventer. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la Chine et le nombre de demandes de brevets, on voit bien que les Chinois ont faim d'invention. On n'est pas dans une économie où on se contente de copier, regarder et de développer des choses qui sont inventées ailleurs. Alors, il y a des secteurs où c'est plus ou moins facile. La grande difficulté, c'est que lorsqu'un inventeur dépose un brevet, compte tenu du nombre de brevets à gérer par les différentes agences nationales, internationales, européennes et autres sur les brevets, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est des étapes un peu lentes entre le dépôt, l'obtention du brevet. C'est pour ça, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, comme il se passe à peu près entre 8 ans, 10 ans ou 12 ans entre le brevet et l'arrivée sur le marché, la fameuse autorisation de mise sur le marché, il y a des certificats qui permettent de prolonger la vie d'un brevet qui est de 20 ans, par exemple. Mais ça, c'est un domaine particulier. Il y a d'autres domaines où la vie du brevet est très différente. Dans l'électronique, un brevet peut devenir très vite obsolète au bout de quelques années. Donc ça change. Non, il faut effectivement avoir une rapidité dans l'obtention des brevets, mais ça, tout le monde essaye de corriger les choses.
Patrick Terroir, comment vous voyez les choses, vous, sur les acteurs américains et
chinois ?
Moi, je
dirais qu'il y a un peu deux paradoxes. Le premier, c'est que les Chinois ont maintenant un système de délivrance de brevets qui est de plus en plus exigeant, sérieux et rigoureux, parce que c'est pour eux une question de crédibilité et une question de présence sur le marché mondial. Et qu'à l'inverse, le brevet américain a fait l'objet d'ailleurs récemment d'un grand travail d'une commission du Congrès ou la présidente, je me souviens plus, qui montre que le système américain de brevet est trop laxiste et qu'il faut, comme on dit, raising the bar, c'est-à-dire augmenter la qualité des brevets. C'est un sujet très important aux États-Unis et ailleurs. Et donc, paradoxalement, je dirais, c'est le système de brevet américain qui est un peu en cause dans sa qualité.
Alors, avançons si vous le voulez bien. Bernard Meunier, vous avez un peu les mains dans ce domaine-là, puisque à travers Palumed, vous travaillez au développement de brevets pharmaceutiques. Est-ce que les brevets pharmaceutiques fonctionnent différemment des autres brevets ?
C'est un domaine où les choses sont très lentes. Les études précliniques et cliniques sont longues, beaucoup plus longues qu'elles n'étaient auparavant, pour différentes raisons. Les choses sont plus compliquées, on devient plus exigeant. Il faut soigner beaucoup de monde qui ont des métabolismes différents, des comportements alimentaires différents et des façons de prendre des médicaments qui sont différentes. Donc les choses deviennent plus compliquées. C'est un domaine qui reste particulier dans le fait que c'est très long. Mais autrement, au point de vue législation brevet, ce n'est pas hors du commun. C'est simplement l'échelle de temps qui est différente.
Est-ce que selon vous, il faudrait abaisser la protection des brevets du médicament pour qu'ils tombent plus rapidement dans le domaine public et pour amorcer l'innovation justement dans la recherche concernant les médicaments ?
Ça, c'est une idée un peu française. On l'a largement développée dans les années 90-2000. Le brevet obstacle à l'innovation. Je vais tout de même vous dire quelque chose. Il y a un pays qui a fait l'expérience de ne pas aider les inventeurs individuels à déposer des brevets. Ils ont fait l'expérience pendant 70 ans. Il n'y a pas eu plus d'un médicament développé dans ce pays en 70 ans. Alors vous allez me poser la question, quel pays ? Ça s'appelle l'Union soviétique. Ils ont fait l'expérience sur 70 ans. Je ne sais pas si d'autres pays ont envie de faire l'expérience. Quand je regarde la Chine, je n'ai pas l'impression que le Parti communiste chinois a envie de faire la même expérience.
Voilà. Donc ce ne sont pas les brevets qui ralentissent.
Ce n'est pas le brevet qui est un obstacle à l'innovation dans le domaine pharmaceutique. Étant donné qu'ensuite, vous avez des négociations, si un brevet, je vais prendre le domaine du paludisme, qui est une maladie qui touche des pays pauvres qui ont des difficultés pour acheter des médicaments, il est évident que le prix d'un médicament antipaludique acheté dans une pharmacie en Europe pour quelqu'un qui veut passer 8 jours dans un pays où il y a des risques avec le palud est différent. Et c'est ce prix qui permet de payer la recherche, parce que quelqu'un doit tout de même payer la recherche, la fabrication de la molécule. Et ensuite, il y a des accords sur le plan local avec les gouvernements pour être à prix coûtant de fabrication. Et il y a ensuite une troisième série d'accords avec les organisations non gouvernementales qui permettent de vendre et de soutenir la distribution. Donc ce n'est pas le brevet qui, en fait, c'est l'accès aux médicaments. Ce n'est pas une question de brevet, c'est une question de distribution, de pouvoir économique, de niveau de vie. Mais ce n'est pas le brevet qui est l'obstacle.
Patrick Terroir, votre regard d'investisseur, est-ce que parfois il est préférable de ne pas déposer de brevet, justement, pour que puisse se développer une idée ?
La réflexion que vient de faire Bernard, là, ça entraîne à avoir un regard plus large sur ce qu'est un brevet, qui est traditionnellement décrit comme un moyen de protection et d'exclusion, en quelque sorte, d'exclusion des autres, de faire la même chose. Ça ne fait pas disparaître le premier rôle, mais quand même ce second aspect prend de plus en plus d'importance, un moyen d'identifier et de rémunérer la recherche, hein, et un moyen de la diffuser et de la faire circuler. Et donc, dans le domaine de la pharmacie, d'ailleurs, c'est un bon exemple, parce qu'on est à la fois dans un domaine où les brevets ont les valeurs les plus élevées. C'est dans ce domaine-là que les brevets atteignent des dizaines, des centaines de millions. Un brevet seul, je veux dire, pas des paquets de brevets. Et en même temps, c'est là que se pose la question de la diffusion de l'invention pour le bien commun de l'humanité. Donc on est vraiment dans un domaine où une nouvelle conception du brevet doit certainement... Et c'est d'ailleurs ce qui a été discuté dans les accords internationaux, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de développements qui vont apparaître dans ce secteur. Ça, c'est une réflexion générale. Je pense que vraiment, il ne faut pas considérer que sous le mot brevet, il y a une sorte de situation homogène. Votre question sur la pharmacie, d'ailleurs, le montre bien. Il y a des situations très différentes, soit par secteur, soit par stade d'avancement de l'invention. Est-ce que c'est une invention très, très en amont ? Est-ce qu'au contraire, c'est une invention très proche du marché ? Et donc, c'est pas parce que ça s'appelle le brevet qu'il faut qu'il y ait une solution unique et une seule. En fait, il y a des solutions différenciées, comme je dirais dans d'autres secteurs de l'économie.
Alors, secteur de l'économie, venons-en. Les acteurs sur le plan économique sont nombreux. J'ai parlé en introduction d'un terme un peu particulier, les patent trolls, ces compagnies qui justement utilisent des concessions de licences et utilisent le litige de brevets comme principale ressource financière. C'est quelque chose qui se développe, Patrick Terroir, ce système-là de patent trolls ?
Oui, ça se développe évidemment à la mesure de l'importance financière de ce que représente cette économie des brevets. On nous indiquait encore hier qu'une récente transaction portant sur un très grand portefeuille de brevets de la société Nortel, société canadienne en liquidation, qui était initialement proposée autour de 400 millions de dollars, avait atteint un chiffre de plusieurs milliards de dollars. Bon. Il est évident que dans une économie de ce type qui se développe, qui fait apparaître des valeurs aussi importantes, il y a tout un ensemble d'acteurs qui viennent essayer de profiter et de tirer des revenus de cette évolution économique. Donc les patent trolls, qui sont en fait des organismes, généralement des cabinets d'avocats, qui essayent dans ce monde, dans cette économie nouvelle, de se servir du brevet comme au sens ancien, comme droit d'exclusion, comme droit de propriété pour poursuivre des sociétés qui ne peuvent jamais pratiquement posséder tous les droits de propriété intellectuelle qu'il faudrait pour assurer la liberté d'exploitation de leur innovation, ont là un terrain de chasse qui se développe, qui est à la fois donc le signe de la vitalité de cette économie et une bonne caractéristique du dysfonctionnement.
C'est un peu l'avènement du chantage.
C'est l'avènement du chantage, mais le chantage, il faut l'analyser dans sa perspective économique. S'il y a chantage, c'est qu'il y a valeur. Et s'il y a valeur, ça veut dire que les choses sont en train de s'améliorer, je dirais, pour la propriété intellectuelle. Donc, à notre sens, ce qui manque, c'est justement d'avoir des mécanismes d'échange, des mécanismes de rencontre, des mécanismes de circulation des inventions et des brevets qui permettent aux industriels d'acquérir normalement les droits dont ils ont besoin et simultanément de rémunérer normalement les inventeurs. Et nous pensons que introduire dans cette économie de la propriété intellectuelle des mécanismes qu'on appellerait en économie des mécanismes de marché, c'est-à-dire des mécanismes de transparence, des mécanismes de rencontre, des mécanismes de prévisibilité, des mécanismes de sécurité, feront disparaître ces situations, je dirais, qui résultent d'une évolution non achevée de l'économie, où justement le chantage ou d'autres phénomènes non souhaitables peuvent se produire.
Alors vous parlez effectivement de l'économie de la propriété intellectuelle. Bernard Meunier, vous qui avez donc travaillé sur des brevets, comment établit-on la valeur marchande d'un brevet ?
C'est très variable. La valeur marchande d'un brevet, c'est le prix qu'une personne, une société ou un groupe financier est prêt à payer pour un brevet. Ça a été cité tout à l'heure par Patrick. Effectivement, quand vous avez un brevet sur une molécule qui vient de passer avec succès une phase 2 en essai thérapeutique sur une maladie qui concerne des dizaines de millions de personnes dans le monde, je peux par exemple imaginons que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, pour laquelle on a actuellement 4 à 5 médicaments dont l'efficacité est malheureusement extrêmement faible. La première molécule avec le premier brevet qui permettra d'avoir une inhibition de la progression de la maladie, qui fait que l'on va non pas mourir de la maladie d'Alzheimer, mais mourir de toute autre chose et plus rapidement que la maladie d'Alzheimer, cette molécule-là et ce brevet vaudront des centaines et des centaines de millions d'euros. Si vous avez un brevet qui est simplement sur une molécule qui apporte quelque chose, vous êtes la 44e molécule sur un marché. D'abord, maintenant, on n'est pas sûr d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et même si vous l'avez, il y aura une molécule qui ne vaudra pas grand-chose parce que ce ne sera pas un bon thérapeutique, une modification essentielle dans la pharmacopée. Donc, les prix sont extrêmement différents. Et je reviens après sur l'exemple tout à l'heure de l'électronique. Quand vous êtes à un 1/30 de copropriété, les revenus que vous pouvez espérer de votre 1/30 ne sont pas les mêmes que si vous avez 2000 hectares dans la Beauce ou vous êtes avec un studio dans la banlieue d'une petite ville de province. Voilà les différences. Il y a un marché pour ce que représente la protection. Le brevet, c'est pas simplement pour se protéger. C'est protéger les investissements correspondant au développement d'un brevet. Quand vous avez un brevet dans le domaine pharmaceutique, sur une molécule, si vous n'avez pas les dizaines de millions et les centaines de millions d'euros qui permettent de pousser des études précliniques et cliniques jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, vous n'en faites rien. C'est juste un morceau de papier qui décrit une molécule. Donc, derrière, il y a un investissement majeur. Donc, vous ne pouvez pas dissocier la notion de brevet investisseur. Et si vous avez des investissements, vous attendez à avoir un retour sur investissement. On n'a pas encore trouvé de mécanisme de développement de médicaments qui soit strictement basé sur la philanthropie.
Alors, à partir de ce que vous venez de nous dire, Bernard Meunier, est-ce que justement ça écarte les PME, les petites entreprises qui justement pourraient être amenées à développer de nouveaux produits, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se procurer ces brevets qui sont devenus trop chers sur le marché ?
Oui, c'est même pas trop cher. C'est le fait que pour acquérir les droits de propriété intellectuelle dont on peut avoir besoin pour assurer sa liberté d'exploitation, il faut trouver le brevet. Il faut ensuite se lancer dans des négociations juridiques qui sont extrêmement longues et très complexes, avec une absence de sécurité, et pour des valeurs qui ne sont pas prévisibles par l'entreprise. Donc, les PME qui sont souvent des PME inventives, enfin je parle en général hein, en Europe, et qui donc sont elles-mêmes déposants de brevets, elles ont souvent la propriété du cœur de l'invention, mais elles ont besoin pour développer leur exploitation d'autres brevets qui leur donnent une liberté d'exploitation complète. Tant qu'elles n'exportent pas, le problème se pose pas vraiment. Mais dès qu'elles exportent, et en particulier dans les économies occidentales, américaines, on leur demande de démontrer qu'elles sont bien propriétaires des droits de propriété intellectuelle sur les produits qu'elles vendent. Et là, elles se trouvent effectivement dans une situation difficile. D'où les initiatives que nous sommes en train de prendre en France, en Europe, qui sont prises également dans d'autres pays asiatiques, comme la Corée. On parle maintenant d'une guerre des brevets, officiellement. On crée des fonds semi-publics de défense de la propriété intellectuelle, parce que les grands producteurs coréens ou chinois ou taïwanais sont évidemment l'objet d'un certain nombre d'attaques pour copie. Bon. Et donc en France, mais dans le cadre d'une réflexion européenne, nous avons commencé justement à créer un fonds d'investissement qu'on a appelé France Brevet, qui a été créé entre l'État et la Caisse des dépôts, justement pour acquérir les droits de propriété intellectuelle, les réunir dans des grappes qui sont technologiquement pertinentes, afin de les licencier à nos PME. Donc il faut créer dans ce domaine, évidemment, on ne peut pas créer simplement une place de marché passive où on met les brevets dans la vitrine. Il faut des mécanismes actifs qui permettent de saisir et de transformer la matière dont on a besoin. Et c'est ce type de mécanismes qui vont être de plus en plus nécessaires, effectivement, pour asseoir le développement des PME innovantes.
Donc les États vont de plus en plus aider les PME.
C'est en tout cas le mouvement qui se décide. Si vous voulez, il a été initié, Bernard en parlait tout à l'heure, par le marché privé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les brevets ont beaucoup plus d'importance, sont l'objet de beaucoup plus de litiges. Et les grands industriels, notamment dans le secteur de l'informatique, des télécommunications, mais maintenant dans d'autres secteurs, se sont réunis pour créer des sociétés comme Intellectual Venture qui ont eu comme mission d'acquérir dans le monde entier le maximum de brevets qu'ils ont ensuite licenciés aux propriétaires de ces sociétés. Ce mouvement s'est produit parce que il y a déjà 5-6 ans, aux États-Unis, qui dans ce domaine-là étaient en avance, ont pris conscience effectivement, de l'importance économique. Alors au début, c'était des instruments destinés principalement aux grands groupes, mais maintenant, on a de nombreux contacts avec les Américains, on voit que le sujet PME est de plus en plus important, parce que c'est là, dans le domaine de l'organisation industrielle aussi, il y a ce qu'on appelle l'open innovation, vous savez. Et on s'aperçoit que les PME sont de plus en plus les porteurs, les générateurs des inventions. Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure ce fameux téléphone. Ce téléphone est un bon exemple, vous voyez. La firme, elle a fabriqué la boîte, le système, mais il est alimenté par les inventeurs, vous et moi, du monde entier, qui apportent leurs applications. Et c'est une bonne image de ce qui est maintenant souvent l'industrie. Les grandes compagnies sont bien souvent des agrégateurs d'inventions. Et elles les mettent dans leurs produits, elles les commercialisent. Parce qu'un inventeur tout seul, évidemment, ne peut pas le faire.
Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Bernard Meunier, je vais vous laisser le mot de la fin. Je précise pour nos internautes que vous avez mis sur pied un colloque qui a eu lieu le 5 juillet 2011, justement sur les enjeux des brevets, enjeux à venir. Quel serait le mot de la fin et qu'est-ce que l'on peut espérer des brevets en quelques mots?
Ce colloque organisé par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies, que j'ai le plaisir d'organiser avec Alain Pompidou, est un bon exemple de ce que l'on peut faire quand, dans un lieu qui ne serait pas considéré comme un lieu classique pour discuter des brevets, on peut effectivement voir des intervenants de l'Office de brevets européen, de la Commission européenne, de l'OCDE, des partenaires industriels, pour avoir effectivement, pour reprendre le titre de votre émission, un regard très croisé sur l'ensemble du problème des brevets, qui est un monde très vivant et très dynamique aujourd'hui. Le brevet, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, aura un brillant avenir devant lui.
Eh bien, merci Bernard Meunier. J'ajoute qu'on retrouvera la vidéo du colloque sur le site de l'Académie des sciences. Merci à tous les deux d'être venus nous voir et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Au revoir.
Merci.